Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxième et quatrième dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Depuis Platon, c'est-à-dire depuis 2500 ans, la réflexion sur l'art est entre autres une réflexion ontologique. Autrement dit, réfléchir sur l'art, c'est aussi se demander qu'est-ce que la réalité ? Platon, on le sait, condamne la peinture figurative, la peinture imitative, parce qu'il la considère comme un simulacre, comme une tromperie. Il considère que la peinture imitative est éloignée du vrai de 3 degrés, puisque chez Platon, ce qui est réel, c'est les idées. C'est les idées elles-mêmes. Les choses du monde ne sont déjà que des copies imparfaites des idées. Et le peintre, lui, produit des copies imparfaites des choses qui sont déjà des copies imparfaites des idées. Donc éloignement de 3 degrés du vrai. Et d'où sa condamnation de la peinture figurative. Alors, l'histoire récente de la culture, notamment de la culture occidentale, a multiplié les axes d'approche de cette problématique du réel et du simulacre. On pourrait citer le pop art. On pourrait citer aussi la pensée de Jean Baudrillard, notamment dans un célèbre essai qui s'appelle « Simulacre et simulation », dans lequel il creuse l'idée justement de cette crise, de l'idée même de réalité. Je voudrais illustrer cette réflexion sur le réel et le simulacre avec un film réalisé par Clint Eastwood en 1980, un film titré « Bronco Billy », qui est une œuvre qui est intéressante parce qu'elle se situe justement à la marge du genre western et qui pose la question de la frontière ténue entre d'un côté le western et de l'autre le road movie. En fait, le film de Clint Eastwood propose une mise en abîme de l'idée de représentation et de simulacre, puisque dès le début du film, on est accueilli par un monsieur loyal qui nous dit qu'on est dans le faux, qui nous dit qu'on est dans le cirque, qu'on est dans le chapiteau et qu'on va assister à un spectacle qui imite l'Ouest sauvage, mais dans le contexte du monde contemporain. Donc on est dans un film, ce qui est déjà donc un simulacre, qui nous montre un autre simulacre.
Et maintenant, pour commencer notre soirée, voici le chef Grand Aigle, l'arrière petit-fils du redoutable guerrier Apache, le chef Geronimo, dans son superbe numéro, sa légendaire danse du serpent à sonnette que nul blanc au monde n'a jamais, jamais vu, ici ou bien ailleurs. Le chef Grand Aigle! Qu'est-ce que tu vois?
Alors, le cirque de western, ça s'inscrit bien sûr dans la vieille tradition du Wild West Show, hein, qui, en fait, est une tradition très ancienne en Amérique, puisque dès 1870, il y a comme ça des shows qui montrent des dressages de chevaux, des lassos, des indiens, etc. Il y a même des personnages, on le sait, bien sûr, hein, qui sont passés de l'histoire réelle à sa représentation, comme Robert Ford, l'assassin de Jesse James, ou encore Buffalo Bill. Alors, ce qui est intéressant dans Bronco Billy, c'est que Clint Eastwood met en abîme le thème de la relation à la réalité. Clint Eastwood, dans le film, incarne donc un acteur qui joue au cow-boy dans son cirque. Sa référence, d'ailleurs, sont des cow-boys de cinéma. Et le terme de Bronco Billy, enfin le mot Bronco Billy, renvoie, bon, c'est pas dit dans le film, mais c'est assez facile à trouver, à Bronco Billy Anderson, qui était en fait le premier héros du western dans les années entre 1903 et 1915, donc tout début du western, à l'époque muette évidemment, et qui avait joué dans à peu près 500 films. Donc Clint Eastwood s'amuse à imiter un cow-boy de cinéma, donc un cow-boy qui est déjà un simulacre, qui est déjà une construction fictionnelle. Donc là aussi, on est, pour reprendre le vocabulaire platonicien, on est éloigné de plusieurs degrés du vrai cow-boy. Et cette crise de l'idée de réalité, elle s'accompagne dans Bronco Billy d'une crise de l'idée d'identité. Puisque ce qui est assez étrange, c'est que Bronco Billy non seulement joue à être un cow-boy pendant la représentation, mais il se prend vraiment pour un cow-boy, y compris en dehors des horaires de la représentation. Et de la même manière, je ne m'étendrai pas parce que ça serait trop long, mais dans le film, l'identité de tous les personnages de la troupe de théâtre est également instable, comme celle de Bronco Billy. Et à cet égard, les trois scènes les plus savoureuses du film sont sans doute les scènes où justement la fiction s'invite dans la réalité. Il y a par exemple la scène du duel avec le shérif, parce qu'à un moment il y a un duel avec le shérif, mais avec un vrai shérif. Donc là on est dans la diégèse, on est dans l'histoire, on n'est pas au moment de la représentation de cirque. Le moment de l'attaque du train, puisque comme la troupe de cirque a des problèmes financiers, ils décident d'attaquer un train avec la voiture à l'ancienne. Alors bien sûr ils n'y arrivent pas parce que le train va beaucoup plus vite. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a dans le train il y a qu'un enfant qui les voit et qui dit eh, maman, il y a des Indiens, des cowboys qui attaquent le train. Et puis voilà, la mère lui dit tu rêves évidemment. Et puis il y a aussi la scène de l'attaque de la banque où là Bronco Billy intervient quand des braqueurs cassent la tirelire d'un enfant là encore. Et l'enfant, on sait que c'est un personnage qui a un rôle central dans la filmographie de Clint Eastwood. Et l'enfant, le regard de l'enfant, c'est justement le regard de l'innocence peut-être chez Eastwood dans un cinéma qui par ailleurs est plutôt dominé par le désenchantement et les doutes. Et je renvoie à une chronique que j'avais fait il y a assez longtemps sur Impitoyable de Clint Eastwood.
Oh les mains, ou je vous change en passoire. Je devrais vous envoyer vous balancer au bout d'une corde pour vol de bétail.
On faisait rien, on voulait seulement parler à Bronco Billy.
Très bien, retournez-vous, lentement. Est-ce que par hasard, petit crapaud, vous auriez tous séché l'école pour me voir?
Waouh, regardez ces revolvers.
C'est bien lui, Bronco Billy.
Baissez les mains, crapaud.
Dites, c'est vrai que vous êtes le plus rapide tireur de l'Ouest?
Il n'y a pas plus rapide, fiston, que Bronco Billy.
Donc, le charme particulier de Bronco Billy, c'est ce mélange d'humour et de nostalgie, puisque le spectateur, comme finalement le personnage lui-même dans le film, prennent acte de l'éloignement, à la fois de l'Ouest sauvage, mais aussi du western classique, puisqu'en 1980, le western classique est mort depuis pas mal d'années, si on peut dire. Et western classique, qui lui-même était éloigné de manière très importante de la fin de l'Ouest et de l'époque de la conquête. Donc, dans le film, Clint Eastwood nous propose d'autres jeux comme ça sur l'artificialité. Par exemple, il y a une allusion assez subtile au pop art, puisqu'il y a un moment où Bronco Billy achète des bouteilles de coca. Il les achète en série. Il oublie que les autres lui ont commandé d'autres choses. Il achète des bouteilles de coca comme ça, un peu comme dans une œuvre de Warhol où les bouteilles de coca se multiplient. Il y a aussi, bien sûr, des allusions à l'histoire du western lui-même. Alors, il y a des allusions internes à l'œuvre de Clint, comme à José Wells hors la loi, par exemple, qui était son western précédent. Mais il y a aussi la présence de certains acteurs. Par exemple, dans Bronco Billy, il y a un tout petit rôle qui est donné à Hank Warden, qui est un acteur alors qui a joué dans la Rivière Rouge, dans la Captive aux yeux clairs de War Dogs, qui a joué beaucoup avec John Ford aussi, le Fils du désert, le Convoi des braves. Et puis surtout, c'est lui qui joue dans La prisonnière du désert et qui joue le rôle de Moses Harper. Et Moses Harper, dans La prisonnière du désert, là aussi j'avais fait une chronique l'année dernière, une chronique westernosophique sur ce film magnifique. Moses Harper, dans La prisonnière du désert, c'est un fou, mais qui dit la vérité, qui dit toujours la vérité en fait. Et là aussi, la folie, c'est un thème central de Bronco Billy, parce qu'en fait, on se demande tout le long du film si finalement il n'est pas un peu fou, puisqu'il se prend pour un cow-boy en 1980. Sauf que la folie de Bronco Billy, elle met en lumière la folie du monde en fait, par reflet, par miroir. On se rend compte que l'artificialité du personnage de cow-boy décalé dans ce monde contemporain, elle met en exergue finalement l'artificialité du monde lui-même, hein, et l'artificialité du monde soi-disant sérieux. On se rend compte que tous les personnages qui incarnent la norme dans le film, le shérif, l'avocat, le directeur de l'asile psychiatrique, eh bien, ils sont tous borderline eux aussi finalement. La folie de Bronco Billy révèle leur propre folie. Et là, on peut relire un texte magnifique de la Renaissance, hein, d'Erasme, Éloge de la folie, où justement Erasme se dit que dans un monde fou, c'est peut-être le fou qui est le vrai sage et qui nous renvoie justement l'image de notre déraison.
Tu te crois sans doute plus rapide que moi, hein? Je n'ai aucune envie de m'en assurer, shérif.
Alors c'est ça, Bronco Billy, le meilleur tireur de l'Ouest? Le plus dur des durs, l'hombre, le plus hombre, le héros de légende?
J'essaie seulement de gagner de quoi vivre. De la merde. Je pourrais te battre à tous les coups et les yeux bandés. Tu ne crois pas?
Bernard Benoliel, dans la, dans son livre sur Clint Eastwood, dans la collection Grand Cinéaste, là, publié par Le Monde et les Cahiers du Cinéma. Il se réfère à Michel Foucault en parlant de Clint Eastwood. Il se réfère à une notion, c'est la notion d'hétérotopie. Et l'hétérotopie, par exemple, dans Broncobilly, ça serait le chapiteau de Broncobilly, parce que l'hétérotopie, chez Foucault, je cite, c'est un espace d'illusion. Donc là, chapiteau, c'est bien un espace d'illusion, de représentation, de cirque, qui dénonce comme plus illusoire encore tout l'espace réel. Donc là, on est vraiment dans cette idée d'un reflet, hein, d'une folie et d'une artificialité qui renvoie encore une fois à la folie du monde. De même, Nicolas Chemin, qui a consacré un livre à la place du western dans la filmographie de Clint Eastwood, qui s'appelle Eastwood, la boucle et le trait d'union, chez Dreamland éditeur. Nicolas Chemin écrit ceci, il dit « Broncobilly est un constat mortuaire avant l'oraison funèbre que sera impitoyable. On ne peut plus dire il était une fois dans l'Ouest sans devoir, cruelle nécessité, faire jaillir l'intérêt d'une quelconque intertextualité, distanciation ou d'un exorcisme de filiation. » Donc là encore, hein, dans le film, le simulacre, l'artificialité, la distanciation. On pourrait d'ailleurs se poser comme question pour terminer, se demander finalement si Clint Eastwood est un cinéaste cynique. Est-ce qu'il prend simplement acte comme ça de la crise de l'idée de vérité et de réalité? Et on pourrait se demander finalement qu'est-ce qui reste pour la vérité? Eh bien, comme souvent chez Clint, ce qui reste pour la vérité, c'est finalement la sincérité de la relation humaine. Et malgré tout, dans ce monde où tout est faux, dans ce monde de simulacre, eh bien, il reste de la place pour la vérité de l'amitié, pour la vérité de la fidélité et pour la vérité de l'amour finalement qui va naître de manière improbable entre une héritière en fuite et un cow-boy décalé. Dans la prochaine chronique westernosophique, je creuserai toujours cette idée de transposition de figures du western dans l'univers contemporain avec un film très différent de Broncobilly, un film très célèbre de John Huston de 1961, The Misfits.
Le monde se divise en deux catégories, ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les 2e et 4e dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.